Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité en Mayenne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 juin et oui, ça y est, on approche des vacances scolaires déjà, enfin... Oui, on approche, hein, il reste quelques jours encore. Allez, courage pour les enfants, les ados aussi qui nous écoutent, et puis les parents aussi, peut-être qui ont droit aux des vacances eux aussi. Je suis avec Héloïse pour cette émission. Salut Héloïse.
Salut Marie.
Ravie de te retrouver aussi pour cette émission. Émission, comme d'habitude, où on va parler de pas mal de sujets, hein. On va parler de cette journée olympique qui a eu lieu il y a quelques jours, évidemment partout en France, mais aussi ici en Mayenne, et en l'occurrence à la piscine Saint-Nicolas à Laval. Pourquoi ? Eh oui, eh bien, entre autres pour préparer les Jeux d'ici un an, puisque la piscine fait partie des 7 centres de préparation aux Jeux Olympiques, l'occasion aussi de mettre un focus sur des sports peut-être un peu moins connus, comme le water polo, entre autres. Ce sera retrouvé justement dans le reportage que tu as fait, Héloïse. Et puis on va parler également d'un concert à venir d'ici quelques semaines, un concert caritatif qui aura lieu à Renazé, avec plusieurs chanteurs et chanteuses qui ont fait en tout cas des télécrochets. Ça fait un petit peu ancien comme mot, mais ça se dit toujours en tout cas. Et entre autres, parmi eux, il y a deux Mayennais, et là vous entendrez l'un d'entre eux, Timéo Béas, un jeune homme de 16 ans, originaire de Cran, que vous avez peut-être découvert dans l'émission The Voice Kids. Depuis, il a fait un petit bout de chemin justement, et il viendra nous dire où il en est lors d'un deuxième reportage. Et puis on va s'intéresser à une pratique qui pour le coup est très visuelle. Ben oui, on fait pourtant de la radio, mais le lettering créatif, ça va pas nous empêcher justement d'en parler, de parler aussi des bienfaits de cet art créatif qui permet aussi de la concentration, qui permet à certains aussi... notamment chez les personnes un petit peu plus âgées, il y a toute une histoire de dextérité à manier aussi, à garder. Et tout ça, on en parle avec une Lavalloise qui propose plusieurs ateliers. Elle continuera d'ailleurs de le faire tout cet été, des ateliers donc de lettering créatif, l'écriture des lettres, un peu de la calligraphie à la sauce 2023, si j'ose dire. Ça, ce n'est pas elle qui le dit, c'est bien moi. Et donc ça, ce sera tout le sujet de l'interview. On aura aussi le plaisir de retrouver Soizic pour un autre écho de l'écho, pour une chronique sur la fast fashion. Ça, ce sera retrouvé plutôt dans une deuxième partie d'émission. Mais vous le savez, on commence par un point sur l'actualité. Et aujourd'hui, c'est avec toi, Héloïse.
Et oui Marie, cela faisait 3 ans que le projet était dans les cartons et il voit enfin le jour. Laval Agglomération est officiellement habilité territoire zéro chômeur de longue durée. Le projet concerne le quartier prioritaire de Saint-Nicolas ainsi que les zones d'activité proches. L'objectif est simple, permettre aux habitants du quartier, durablement privés d'emploi, de signer des CDI sur les 2 prochaines années dans divers secteurs d'activité comme la couture, la restauration, la conciergerie, la ferme urbaine, pardon, etc. Ce projet est mis en place par l'entreprise à but d'emploi Valhorizon 53 et concerne au moins 80 personnes. Et si vous êtes habitant du quartier de Saint-Nicolas et ne trouvez pas votre bonheur dans ce nouveau dispositif, alors peut-être pourriez-vous en discuter durant la concertation citoyenne organisée aujourd'hui 28 et demain 29 juin. Ça se déroule à la maison de quartier des Fourches, aujourd'hui dès 18h, et à la maison de projet de Saint-Nicolas, jeudi à 18h également. La préfecture de Mayenne appelle les habitants à donner leur avis sur leur quartier. L'objectif est de se rencontrer pour discuter de l'avenir de ces quartiers et de mettre en lumière les initiatives citoyennes. Près de 2000 personnes avaient défilé dans les rues de Laval à l'occasion d'une marche des fiertés l'an dernier. Ce samedi 1er juillet, le collectif Pride, en lien avec la Gomme 53, engagé dans la lutte contre les discriminations des personnes LGBTQIA+, réitère l'initiative. Le square de Boston constitue donc le point de départ de cette marche solidaire à partir de 10h30. Un pique-nique est organisé par la suite, l'occasion de se réunir tout en diffusant des messages de tolérance. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Pride Laval ou sur leur compte Instagram.
Il ne portera plus le maillot des Tangos la saison prochaine, Héloïse.
Et oui, Marie, l'attaquant du Stade Lavallois, Geoffrey Durban, a annoncé son départ hier via son compte Instagram. Arrivé en 2021 au club, il aura remporté le titre de champion de national en 2021 et 2022 avec 19 buts marqués à son actif. Même si cette saison, s'est montré un peu moins, où il s'est montré un peu moins à l'aise en Ligue 2, il marquera quand même ses esprits malgré son départ. Vous vous sentez vous aussi concerné par l'environnement et le développement durable et vous voulez en savoir plus sur les bons gestes à adopter pour notre planète? Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le festival Planète en Fête s'ouvre ce week-end 1er et 2 juillet à Jublin. L'objectif est de rassembler toutes les initiatives du département autour du développement durable. Au programme Grand Marché des producteurs biologiques locaux, débats, conférences, concerts, spectacles et repas. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour petits et grands. Et enfin, une nouveauté pour nos Lavallois au 14 juillet prochain. Et oui, la ville de Laval organise un feu d'artifice interactif. Et oui, il sera bel et bien possible de choisir la musique du bouquet final. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site de Laval Agglomération, de télécharger l'application et de voter pour sa musique préférée. Et ainsi, la musique qui aura enregistré le plus de suffrages sera utilisée pour le tableau final du feu d'artifice.
Et donc ça, ce sera d'ici quelques jours. Merci beaucoup, Héloïse. On poursuit avec toi, puisque, eh bien oui, à un an déjà des JO, la piscine Saint-Nicolas à Laval vit déjà au rythme de Paris 2024.
Et oui, Marie, à l'occasion de la journée olympique et paralympique, la piscine a organisé une journée découverte des sports aquatiques, encadrée par nos deux champions lavallois de waterpolo, Ifik Dubar et Jeanne Mecky. Un moment de partage et d'inclusion autour du sport, Benoît Launay, chargé des dispositifs d'animation à la piscine de Saint-Nicolas, nous explique.
La journée olympique est une journée nationale et à Laval, nous, on propose de découvrir les activités de la natation, donc c'est-à-dire le water polo d'un côté, la natation de course de l'autre avec des chronomètres pris. Là, pour l'instant, on a un petit record. Et puis, évidemment, le plongeoir, qui est une discipline des Jeux olympiques. On a mis aussi un petit parcours un peu du combattant avec des structures gonflables qui fait bien plaisir aux enfants aussi. Donc de 14h jusqu'à 15h30, on a accueilli deux écoles, deux classes de Louis Pergaud à Laval et deux classes de l'école Alain aussi à Laval. Donc chaque classe est passée sur chaque... Donc il y a quatre activités qu'on propose et sont passées sur les quatre activités.
Moi je m'appelle Kairon, j'ai 9 ans. Et aujourd'hui, on est parti à la piscine pour la journée olympique. C'était plutôt bien. Il y avait les maîtres nageurs, ils étaient très gentils. On a fait plusieurs ateliers, des matchs, des exercices. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était de sauter 5,80 m.
Je m'appelle Maxime, j'ai 10 ans. C'était trop bien puisqu'il y avait 4 ateliers différents. Il y avait un parcours sur l'eau, il y avait des longueurs chronométrées, un match de water polo et des sauts. J'ai bien aimé le parcours et les matchs. Donc, moi, si j'ai le choix à choisir un sport, ouais, j'aimerais bien essayer.
Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Jégu, je suis enseignant de CM2. On a eu une organisation qui était bien rodée et les enfants ont pu, avec tout leur niveau varié de nageurs, profiter de la journée. Donc c'était très sympa. Le but, c'est déjà de prendre du plaisir à la piscine dans un milieu qui n'est pas forcément évident. Et il y en a qui sont très à l'aise et puis d'autres qui ont besoin justement d'appréhender le milieu. Donc c'est vraiment tout le monde peut travailler en partant de son niveau et a des choses à améliorer. Ils ont quasiment tous pris part aux activités avec plaisir et il y en a même qui se sont un peu libérés et qui ont avancé quand même à leur niveau et qu'on fait des efforts pour justement un petit peu profiter des activités malgré leurs appréhensions.
Tout à l'heure, donc pendant les scolaires, il y avait un petit groupe de l'IME qui y est venu et avec son responsable Laurent Gelan, donc je remercie. Et c'est vrai que j'avais invité toutes les associations autour du handicap qui travaillent avec nous tout au long de l'année. Donc on travaille aussi avec l'association d'autisme Coxibleu 53 et voir ensemble. Et le but pour nous, c'est d'inclure des enfants dans nos cours à l'école de natation. Ça va faire un an qu'on fonctionne. On avait 6 jeunes cette année qui venaient accompagner de leurs parents à chaque séance, mais qui participaient dans un groupe, qui ont suivi les cours tout au long de l'année. On le fait dans l'inclusion, on va dire. Voilà. Le but, c'est que tous ces enfants, ou même adultes, puissent participer, comme à chacun, à une activité ici. Évidemment, certaines associations ont des créneaux réservés, mais le but quand même est de faire venir toutes ces personnes le plus possible dans nos cours et dans nos activités, même aquagym, fitness, aquabike, et qu'ils puissent être là avec tout le monde comme tout le monde. Voilà. Et en plus, on a invité donc deux athlètes de haut niveau qui jouent au waterpolo. On a Ifik Dubar qui a joué en équipe de France en tant que jeune, qui joue en professionnel à Reims. Et aussi la petite Jeanne Meki, parce que je dis petite parce que je lui ai appris à nager quand elle était petite, qui a été formée aussi au club comme Ifik Dubar et qui est là, elle est présélectionnée en équipe de France U20. Bah, l'objectif, c'est de faire découvrir toutes les disciplines de natation au plus grand nombre et essayer de faire naître une vocation parmi tous ces enfants, que ce soit les scolaires ou d'autres, parce qu'à partir de 15h30, là, ça va commencer à venir tranquillement. On a invité toute l'école de natation à venir, de Laval Agglomération. On a invité tous les clubs qui utilisent la structure, comme le Laval Water Polo, le Stade Laval en Natation, le Laval Triathlon aussi, et on leur propose de découvrir d'autres activités qu'ils font d'habitude. Les Jeux Olympiques, c'est un moment de partage. Je pense qu'avec une bonne entente entre toutes ces entités, on va dire, pourquoi pas former des futurs champions.
Je m'appelle Ifik Dubar, j'ai 20 ans et j'ai joué 2 ans professionnel à Reims en Pro A.
Je m'appelle Jeanne Meki, j'ai 19 ans. J'ai été à l'INSEP pendant 3 ans et je suis revenue cette année et je joue actuellement en N1. À Laval.
Le but de la journée, c'est de faire, on va dire, rayonner les sports aquatiques pour la ville de Laval. Donc on a eu 4 classes qui ont tourné sur 4 ateliers natation, plongeon, water polo et un petit parcours aquatique. J'espère que ça leur a plu et franchement, ils se sont bien donnés, c'était cool.
On s'est occupé de l'activité water polo, on était chacun dans une équipe et on a fait découvrir le sport. Laval, ça va être un centre d'entraînement pour tout sport aquatique, nat synchro, plongeon, water polo et même natation. Donc ça permet à Laval d'être un peu au centre et de mettre la ville en avant, donc c'est super.
J'espère que les jeunes ont apprécié, j'espère que ceux qui ont aimé viendront au moins essayer en nombre. Et ouais, s'ils ont apprécié qu'ils viennent s'inscrire et s'essayer au water polo ou à la natation.
Venez là les filles, venez par ici.
Bonjour, je m'appelle Tetiana Afanasieva, je suis ukrainienne et je m'entraîne au club Stade Lavallois depuis un an et demi. Bah, moi je nage 4 nages, papillon et la brasse et le crawl aussi.
J'aime bien toutes les nages mais c'est la brasse que je préfère.
Ouais. Bah c'est un rêve ouais.
Oui.
C'est un rêve de
ouais.
JO.
Ouais. Bah après il faut bien travailler à l'entraînement. Hein.
Donc la piscine Saint-Nicolas a été labellisée centre de préparation aux Jeux. Et dans ce cadre, déjà l'an dernier, on a eu fait une première action en organisant un tournoi de water polo international. Donc on avait accueilli l'équipe féminine française pour un tournoi avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Canada. Le but, c'est d'attirer des nations qui puissent se préparer pour les Jeux qui sont à Paris. La piscine est à 1h15 de Paris, donc elle a des atouts pour attirer des nations. On a un bassin qui s'appelle un bassin olympique qui fait 50 mètres de long et qui a 8 lignes d'eau de largeur. C'est la force aussi de Laval d'avoir cette structure.
Et l'occasion de rappeler que parmi les sept centres de préparation au JO, celui du dojo à Château-Gontier, qui accueillera les athlètes de judo, sera inauguré ce vendredi et samedi en compagnie de la judokate Clarisse Agbenienou, j'espère que je le prononce bien, et oui, de la ministre des Sports.
Merci beaucoup Héloïse pour ce point complet, en tout cas autour de la journée olympique et paralympique à la piscine Saint-Nicolas. Vous avez vu qu'on a parlé à la fois de la pratique de la natation, du haut niveau aussi, avec l'accueil espérée de délégation dans les sports aquatiques, entre autres en water-polo. Bien là aussi, on va parler d'un certain haut niveau, pas du tout en sport, mais non, parce qu'on change complètement d'univers. En tout cas, deux chanteurs et chanteuses de talent qui seront réunis à Renazé pour une association, en l'occurrence l'ARTC, l'Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales. Le concert a lieu d'ici quelques semaines, hein, à Renazé, le 15 juillet à 20h30 à la salle de l'Escale, avec des artistes vus, entre autres, dans les émissions N'oubliez pas les paroles, la Star Academy ou la Nouvelle Star, et parmi eux deux Mayennais, l'animateur Gauthier Paturo, mais aussi le jeune Timéo Beas, 16 ans, révélé par The Voice Kids il y a quelques années. Le jeune Cranet est ravi de commencer cette tournée de 10 dates par un concert sur ses terres.
C'est vraiment un concert complet avec des costumes, des danses, des chants, des mises en scène, etc. Et voilà, c'est super cool. Et comme vous l'avez dit, on fait ça tous les soirs. C'est une bonne ambiance, on est tous ensemble. C'est une famille, moi j'ai intégré l'an dernier, l'été dernier. Et donc voilà, j'ai tout de suite adhéré. Donc ben voilà, j'y retourne encore. Donc c'est trop trop cool, franchement. On passe par exemple du Ed Sheeran à du Michel Polnareff. Donc voilà, on fait différents types de chansons pour toucher un maximum de public, les jeunes comme les plus âgés. Donc c'est ça qui est super cool, c'est vraiment varié. Et voilà, la cohésion de groupe qu'on aura sur scène, tout ça, l'énergie, ce sera vraiment un spectacle assez complet et que je pense que les gens pourront être contents. On est dans un tourbus le soir parce que forcément on switch entre les villes, on passe voilà, d'une ville à une autre. Donc la nuit par exemple on roule et c'est vrai qu'on finit le concert, on va dans le tourbus et on fête ça, enfin, c'est vraiment trop trop cool. C'est vrai que The West Kid ça a été une grande vitrine, voilà, donc ça m'a ouvert plusieurs portes et plusieurs projets. Après on m'a contacté pour faire de la comédie, j'avais jamais fait. Donc je me rappelle mon premier rôle c'était dans la série Sam et là j'ai récemment décroché un rôle donc dans la série... Avenir sur TF1 avec Kev Adams, où j'ai pu jouer le rôle du harceleur de Kev Adams quand il était petit. Pareil, ça m'a encore ouvert d'autres portes sur le doublage. Pareil, j'avais jamais fait ça, jamais j'aurais pensé doubler. J'étais un peu stressée, je savais pas à quoi m'attendre, je sais pas si j'étais capable de faire ça. Et puis en fait, au final, c'est vraiment un jeu d'enfant, on s'amuse quoi. C'est dans l'ombre, mais enfin, j'aime autant quoi, c'est vraiment super cool. J'ai remarqué que depuis la seconde, c'est quand même beaucoup plus de travail, c'est un peu plus difficile, mais j'arrive quand même à gérer. Et heureusement que j'ai des personnes qui sont là pour me donner les leçons. Voilà. Mais non, j'arrive toujours à gérer. On espère que ça durera, mais en tout cas, je vais tout faire pour, vu que c'est important aussi les études. Déjà, aller jusqu'au bac, puis après, bon, je suis sûre et certaine de m'installer sur Paris, enfin, j'espère, parce que tout est centré un peu là-bas. Dans 5 ans, où je me vois, je sais pas. Mais j'espère de tout mon cœur que j'aurai une carrière qui se développera, que les gens entendent mes chansons, les chantent, voilà. Ce serait super cool d'être artiste comme Matt Pokora, Amir et j'en passe. Ce serait vraiment mon rêve, mais il faut bosser pour. Et voilà, le travail, c'est la clé de la réussite. Et en tout cas, voilà, je vais donner de tout mon possible et je vais travailler.
Et pour suivre Timéo et ses projets à venir, rendez-vous sur son compte Instagram, Timéo Beas officiel. Et pour l'applaudir en chair et en os, ce sera donc le samedi 15 juillet à Renazé, à 20h30 à la salle de l'Escale. Comptez 12 euros l'entrée. Vous pouvez réserver auprès du magasin Intermarché de Renazé au 02 43 06 72 92 ou bien vous présenter sur place le soir même. Il devrait rester quelques places. Mais ça, c'est un petit peu à vos risques et périls, si j'ose dire. On va rester justement en musique avec une petite pause assurée par The Blue Stones avec Black Holes avant de retrouver l'interview d'ici 3 minutes. On parlera lettering créatif. We'll be right back. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio dans la JT du local, c'était Black Holes avec The Blue Stones, bien sûr. Et on va parler, comme évoqué au tout début de cette émission, du lettering, ou la calligraphie remise au goût du jour. C'est donc l'art de faire de belles lettres, souvent avec de jolies couleurs, et c'est la passion de la Lavalloise Ilan, qui la partage lors de ses ateliers de lettering qu'elle propose depuis quelques mois, et même un petit peu plus longtemps en ligne. Un art créatif accessible à toutes et à tous, que ce soit pour faire de jolies créations, prendre du temps pour soi ou même offrir des cadeaux maison.
Moi, c'est Ilan et donc j'ai 46 ans et je suis artiste en lettering. C'est-à-dire que le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres.
Alors, d'où est venue justement cette passion et qui est devenue votre métier aussi, puisque je vous avoue que avant d'ouvrir votre mail, lettering, ça ne me parlait pas du tout.
Oui, bah alors ça, j'ai l'habitude qu'on me pose la question. Alors en fait, effectivement, le lettering, c'est assez nouveau pour moi aussi, en quelque sorte, puisque c'est suite à une reconversion que je me suis lancée dans ce domaine. Et j'ai connu ça parce que j'étais passionnée en fait de papeterie, de feutre, de crayon. Et j'ai découvert ça avec ce qu'on appelle le bullet journal, donc c'est encore un terme anglais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de tenir un agenda dans un carnet où on écrit soi-même en fait tout, c'est vraiment du sur-mesure, on écrit tout, bah les mois, les années, les jours. Et en fait, l'intérêt, c'est que c'est très, vu qu'on l'adapte à soi-même, on peut vraiment choisir si on veut présenter par mois ou par jour. Souvent, un agenda, c'est déjà formaté et puis des fois, on a trop de pages, des fois pas assez, etc. Et donc moi, comme j'adore partir d'une page blanche, en fait, d'un carnet vide, j'ai découvert le bullet journal. Et souvent, quand on regarde sur Internet, je vous laisserai regarder ça, on tombe sur des très belles pages avec des belles écritures. Et voilà, ça a vraiment commencé de là. Et puis, vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait devenir un métier. Mais ça s'est fait petit à petit. J'ai partagé ma passion d'abord sur un blog qui s'appelle Lettering Créatif. Et après ce blog, j'ai construit une communauté autour des fans de lettering. Et puis, j'ai commencé à donner des ateliers pour retransmettre en fait ce que j'avais découvert. Et aujourd'hui, je suis vraiment à plein temps dessus depuis 4 ans quand même déjà.
Donc, en effet, ça commence à dater aussi un petit peu. Alors, ma question, elle va être difficile parce qu'on est à la radio, mais à quoi ça peut ressembler finalement pour qu'on puisse se l'imaginer?
Ouais. Alors finalement, c'est assez proche de la calligraphie. On connaît mieux la calligraphie, on va s'imaginer des belles lettres écrites à la plume. Et moi, le lettering, je le pratique au feutre. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est quelque chose de très accessible. J'ai toujours un carnet et un feutre sur moi et je peux commencer à gribouiller avec. Et après, ça va ressembler à ce qu'on voit soit en calligraphie, soit même sur des affiches de pub, c'est-à-dire comment rendre vraiment très jolies des écritures en faisant des pleins et des déliés. On peut rajouter des dégradés, des ombres. Après, c'est à la porte ouverte à la créativité, en fait. Donc, vous pouvez considérer que c'est tout ce qui est dessin de lettres jolies, je vais dire ça comme ça, même si ça paraît un peu simpliste, ça s'apparente à du lettering.
Est-ce que ça veut dire que vous-même, avant, vous faisiez déjà du dessin, de la peinture ou un autre art créatif ?
Alors, plus éloigné, je faisais de la photo, beaucoup de photos, mais n'empêche que ça exerce l'œil, tout ce qui est cadrage, composition. Donc ça, je pense que ça a quand même joué dans ma façon de composer. Et je dessinais un peu, mais alors plus des portraits, du manga, enfin donc pas forcément de rapport avec les lettres. C'est drôle parce que ça a ouvert une porte, je pense, vers quelque chose. Je pense que j'ai toujours eu l'amour aussi des mots. Et le lettering, j'essaye de faire se rejoindre le fond et la forme. C'est-à-dire que moi, quand j'écris dans un carnet, habituellement, j'écris avec mon écriture habituelle, donc qui n'est pas particulièrement jolie. Je dis ça pour les gens qui voudraient essayer le lettering. Vous n'avez pas du tout besoin que votre écriture soit belle à la base. Mais par contre, je faisais plus attention typiquement aux titres. Je trouve que c'est sympa voilà, d'avoir des jolis titres. Et en fait, à force de faire des jolis titres, des belles mises en page, et on écrit plein de mots différents, donc on a besoin de connaître quand même, enfin, que toutes les lettres de l'alphabet soient bien dessinées. Et après, je me suis intéressée à la typographie, donc comprendre comment est structurée une lettre. En fait, chaque lettre a un peu son identité. Et c'est devenu une passion. Et là, il n'y a pas une journée où je suis pas en train de dessiner une lettre.
Et donc, passion que vous partagez, vous l'avez dit, lors d'ateliers. Des ateliers qui peuvent s'adresser à qui, finalement ?
Alors, un peu à tout le monde, même si je dois admettre que j'ai quand même un public assez féminin. Je pense que c'est aussi dû au style que j'ai développé, avec pas mal de couleurs pastel, des motifs floraux parfois, etc. Mais en réalité, voilà, tout le monde peut s'y mettre. Et j'ai envie de dire que c'est à tout âge aussi. Parce que dans mes ateliers, j'ai à la fois des enfants, alors Je conseille quand même à partir de 7-8 ans parce qu'il faut connaître son alphabet. Donc j'ai aussi bien des enfants que des personnes plus âgées, donc voilà, jusqu'à des retraités. Parce que chacun va y chercher quelque chose de différent. Souvent, les personnes âgées me disent « Ah, mais quand j'étais jeune, je faisais de la calligraphie, ça ressemble beaucoup. Les jeunes, ils vont plus être attirés par le style BD, comics, manga, parce qu'on peut faire aussi des lettres très dynamiques comme dans la BD. Les jeunes filles, elles aiment bien le bullet journal, justement, ou décorer. Après, je vais aussi avoir des artistes peintres qui veulent rajouter des mots dans leur carnet créatif ou dans leur carnet de voyage. » Et ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui viennent apprendre à dessiner les lettres, alors que pour moi, ça me paraît plus difficile ce qu'ils font quand ils font des paysages, des portraits, des natures mortes. Et moi, en gros, il y a voilà, un nombre limité de lettres de l'alphabet. Mais en fait, l'approche est un peu différente et ça les intéresse aussi. Des fois, ils ne savent pas comment bien dessiner les lettres. Donc vraiment, ça peut être juste pour soi, pour se faire plaisir, pour développer sa créativité. Ou pour même faire des fiches de révision. J'ai des collégiens qui adorent faire des belles fiches et qui viennent aussi apprendre le lettering.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir quand même un petit peu manier le crayon avant de s'y mettre ou pas forcément ? On peut venir à vos ateliers comme ça en n'ayant aucune base.
Ah oui, non, besoin d'aucune base absolument puisque je commence au niveau le plus débutant où je vais je vais présenter le matériel au début puisque j'utilise assez souvent les feutres pinceaux, même si encore une fois, c'est pas du tout obligé d'avoir des feutres pinceaux pour faire du lettering. Mais c'est ce qui m'est beaucoup demandé au feutre pinceau parce qu'on peut faire des pleins et des déliés, des traits fins et épais. Et là, il y a vraiment une façon de tenir ce feutre. Donc, j'explique tout vraiment de zéro. Donc, venez comme vous êtes, comme on dit. En plus, je fournis voilà, le matériel aussi. Donc, pas besoin de venir avec quelque chose de particulier. Feuilles et feutres sont fournis pendant l'atelier.
Donc, vous les proposez à Laval, c'est ça, régulièrement ?
Oui, actuellement, c'est la Fabrique d'ici. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une boutique aussi d'art et d'artisanat qui vend donc, des objets. Mais depuis quelques mois, je crois que c'est depuis mars, ils organisent des ateliers. Donc, j'en donne là-bas.
Et alors, ça marche comment ? Puisque là, on est en juin, donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu la fin des ateliers. Est-ce que vous en reproposerez après ? Comment ça se passe ?
Oui. Pour l'instant, j'ai fait un format qui est un peu à la carte, c'est-à-dire à l'unité pour que les gens découvrent, vu que je viens d'arriver dans ce lieu. Et j'ai mis des ateliers en juillet, août et septembre. Donc, vous pouvez déjà aller voir le programme, vu que c'est des ateliers d'une heure et demie. J'en ai quand même calé pour voir s'il y aurait du monde. Mais effectivement, avec les vacances, bon, je verrai. Mais à partir de la rentrée, oui, je remettrai des dates. C'est souvent le samedi après-midi, mais là, pour juillet-août, ce sera plutôt en semaine, donc plutôt pour des personnes en vacances. Voilà, donc si entre deux plongeons à la mer ou en vacances, vous avez un petit moment à consacrer à votre créativité, n'hésitez pas à passer la porte.
Vous parlez beaucoup de créativité, justement, ça permet de développer ça aussi. On voit que depuis quelques années, alors je ne saurais pas le dater, mais on voit qu'il y a de plus en plus de carnets de mandala, par exemple, à colorier ou de choses, ou en tout cas, il y a peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années.
Oui.
Ça fait aussi partie, le lettering, de cette mouvance-là, on va dire.
Je pense, oui, tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a eu cette année le premier salon des loisirs créatifs à l'espace Mayenne. Et donc, j'avais un atelier, j'avais un stand. Et oui, ça fait partie de ça. Le goût du fait main, donc ça va avec aussi le retour du tricot, de la couture, du scrapbooking. Je pense qu'on a besoin, peut-être parce qu'on est dans des sociétés qui se sont beaucoup accélérées, de se poser, de créer. On a besoin d'un retour aussi au fait main, à tout ce qui est manuel.
Prendre ce temps-là aussi, j'imagine qu'il y a aussi une notion de concentration.
Oui. Donc moi, je dis souvent, le lettering, c'est un art assez méditatif, assez zen. C'est l'art de la lenteur, j'aime bien dire ça aussi. Et j'insiste beaucoup auprès de mes élèves. Quand je travaille avec eux, je leur parle de la posture, de la respiration. Bon, on ne va pas faire une séance de sophrologie quand même. Mais n'empêche que c'est important. Le geste est très lent. C'est une activité vraiment posée. Et c'est pour ça que je la conseille aussi aux enfants. Ça leur permet déjà de retrouver ce goût du dessin, de la couleur du papier qui peut se perdre avec l'apparition des écrans et tout ça. Enfin, voilà, les parents me comprendront. Hein. Je suis moi-même maman d'une petite fille en primaire. Et puis les enfants, ils adorent ça. Ils adorent faire des cartes. Là, il y avait la fête des mères, la fête des pères. Enfin, il y a tellement d'occasions pour prendre un feutre coloré et dessiner pour quelqu'un. C'est aussi beaucoup du partage. Donc, ouais, que des bonnes raisons de s'y mettre, en fait.
Et quand vous disiez qu'en effet, vous aimez bien que la forme rejoigne le fond, ça va aussi là-dedans, dans l'intention qu'on a finalement lorsqu'on se pose et qu'on se dit, bon, voilà, j'aimerais bien faire, alors je sais pas ce que ça peut être, voilà, pourquoi pas une carte ou autre chose.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose du don et puis du choix des mots. Moi, ça m'amuse beaucoup de voir quels mots vont choisir les ailes, parce que moi, je vais transmettre, vous allez travailler par exemple l'alphabet, le trait, mais c'est pas moi qui vais dire ce que les gens vont écrire. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je disais, ils vont écrire sur un agenda ou sur un carnet créatif ou un carnet de voyage, par exemple, mais ça pourrait être une liste de courses, ils pourraient aussi l'écrire très joliment s'ils voulaient. Et on voit deux types de personnes, ceux qui savent très bien ce qu'ils vont écrire et ceux qui tergiversent un peu, qui choisissent leurs mots. Il y a souvent des prénoms qui reviennent parce qu'on écrit souvent des prénoms en fait des gens. Par exemple, quand on fait un cadeau, on va mettre le prénom de la personne, une carte de vœux, une carte d'anniversaire. Donc, il y a quelque chose aussi autour de ça, c'est qu'on écrit en pensant à quelqu'un. Et ça, je trouve ça beau.
Là, on a beaucoup parlé des particuliers, donc comme vous et moi, mais j'ai cru voir aussi que vous étiez parfois appelé par des entreprises où vous leur proposiez vos services. Je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne.
Oui, dans les deux sens.
Quel intérêt, justement, dans ces cas-là, dans un cadre plus professionnel, on va dire?
Oui, alors là, bon, c'est assez vaste. Je vais donner des exemples pour que ce soit parlant pour les auditeurs. Il peut y avoir une marque, par exemple, qui a envie de quelque chose d'un peu particulier pour leurs clients, pour marquer un événement, par exemple. Et donc là, ils vont me demander de faire des cartes à la main ou d'animer une session, mais pour des clients d'un événement particulier. Donc, je suis pas mal dans le milieu de l'événementiel. Ça peut être un pop-up store, ça peut être pour une Saint-Valentin, une boutique de vêtements qui voudrait avoir des jolies cartes à la main parce qu'ils savent que les gens vont venir acheter des cadeaux, etc. Donc il y a le côté, c'est pour ça que tout à l'heure j'en ai parlé, c'est ce côté d'offrir et d'offrir quelque chose de personnalisé. Après, il peut y avoir aussi des notions de team building. Il y a des entreprises qui proposent pour leurs collaborateurs des moments qu'ils veulent plus conviviaux. Et comme dans beaucoup d'entreprises, la créativité est un élément qui est mis à l'honneur, c'est vrai que de passer par d'autres biais, donc de l'artistique, ça peut aussi leur permettre d'avoir une approche un peu différente et puis d'avoir un moment ludique et convivial. Donc, ça peut être aussi ce genre de prestations. Ça peut être des communautés d'entreprise, des arbres de Noël. Enfin, il y a vraiment tout type de demandes en fait, autour de mes prestations. Et comme c'est de l'écrit, on arrive très facilement en fait, à l'intégrer à l'entreprise parce que ça peut être les valeurs de l'entreprise, ça peut être des mots que les gens se disent en équipe, ça peut être aussi une œuvre collaborative. Donc, c'est vraiment très, très vaste.
Et donc, oui, même en 2023, vous parliez aussi des écrans tout à l'heure. Oui. Ça a d'autant plus de valeur de passer du temps sur une feuille de papier à écrire.
Oui, complètement.
Et de prendre ce temps-là aussi, donc.
Oui. Le temps, c'est aujourd'hui un peu ce qui est le plus précieux, hein, je pense. Donc, je pense qu'on s'en rend compte, en fait, soi-même. Quoi. Dès qu'on passe du temps à quelque chose, c'est comme faire soi-même un papier cadeau ou cuisiner soi-même. Ça, c'est beaucoup plus précieux et beaucoup plus apprécié, du coup.
There's nothing between lunch and dinner. Don't think about the past. Don't think about what could have been, 'cause you'll finally get depressed. Don't think about the future, 'cause you'll end up totally stressed. So try to live in the now. Don't think about the mess. Just say lunch and dinner. Don't think about the past. Don't think about what didn't last, 'cause you'll end up being a mess. Don't overthink the future, 'cause you'll drown in a lake of stress. So live in the now and you'll find out you are really blessed.
Just say
C'était Hooverphonic d'ailleurs, avec un très bel accent anglais. Bah oui, le H comme ça en anglais, c'est bien Hooverphonic, avec leur titre Don't Think. Ça, c'est ce qu'on vient juste d'écouter dans l'AJT du local sur l'autre radio, bien sûr, puisque oui, nous sommes le mercredi 28 juin dans l'AJT du local. Et puis comme promis, et oui, bah, comme je vous fais le petit menu en début d'émission, c'est pas pour mentir, hein. On va bien retrouver Soizic pour cette chronique, un autre écho de l'écho. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière de l'année.
Et oui, dernière de l'année. Et pour cette dernière, justement, vous nous faites une proposition. Et si on était chic et éthique?
Et oui, Marie, parce que les beaux jours sont revenus et les vacances approchent. Alors, on a bien tous envie d'acheter un nouveau petit t-shirt ou un jean dernier cri. Et d'autant qu'aujourd'hui, c'est tellement peu cher. Effectivement, avec l'inflation, ça peut être intéressant. Alors, en route donc pour trois clics sur Shein. Et hop, trois t-shirts, un pantalon et une chemise. Le tout pour moins de 40 euros. Je vous assure, je suis allée vérifier. Belle affaire, pensez-vous. Sauf qu'en fait, cette ultra fast fashion, cette mode donc renouvelée en permanence, est absolument désastreuse pour la planète. Alors, vous allez vous dire, un autre écho de l'écho est encore rabat-joie. Eh bien non, parce que j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez vous faire plaisir tout en laissant la planète presque intacte.
Alors, pour le coup, c'est moi qui vais être rabat-joie, mais pourtant on dit que le textile émet autant de gaz à effet de serre que l'avion.
Eh oui Marie, c'est tout à fait exact. Et même plus encore, car le secteur de l'industrie textile est emblématique de tous les excès de la société de consommation. De l'obsolescence programmée des tissus créés pour s'user très vite, à la mise au travail de semi-esclaves pour obtenir des prix au ras des pâquerettes, en passant par une consommation d'eau outrancière, et pour finir, par une pollution des océans, due aux produits chimiques et aux microplastiques des vêtements jetés, qui terminent la plupart du temps sur les plages africaines.
Alors comment faire ?
Eh bien pourtant, il est possible d'être beau et belle sans trop abîmer notre planète. Et écoutez bien, des entrepreneurs, conscients de l'impact écologique catastrophique de l'industrie textile, demandent à l'État de les réguler. Oui, oui, vous entendez bien, des patrons demandent à être contraints par des normes fiscales. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un collectif de 150 responsables d'entreprises du textile français qui, je cite, essaye de faire sa part dans la lutte contre le changement climatique, mais qui constate que les efforts seront sans effet si toutes les autres marques qui vendent des vêtements en France ne s'impliquent pas à la même hauteur. Pire encore, disent-ils, leurs engagements les désavantagent, puisqu'aujourd'hui, plus une entreprise pollue, moins sa production lui coûte cher et plus elle est compétitive. C'est ce que les économistes nomment la prime au vice. Alors, ce collectif souhaite donc que la loi oblige les entreprises de l'habillement à payer réellement les coûts environnementaux qu'elles génèrent. Concrètement, ils réclament une augmentation de l'éco-contribution, actuellement de 6 centimes par vêtement, à 5 euros pour les marques ayant les plus mauvaises pratiques en termes de bilan carbone, d'incitation à la consommation ou de greenwashing avéré.
Donc vous nous dites qu'il pourrait exister une mode vestimentaire vertueuse.
Exactement. Vous voyez, je donne des bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, l'enseigne emblématique reste évidemment Patagonia. Souvenons-nous de sa campagne publicitaire qui disait, je cite encore, « L'acte le plus responsable que vous puissiez faire est encore de ne pas acheter ce vêtement si vous n'en avez pas besoin. » La marque a ainsi assis sa réputation sur des vêtements très solides qui sont issus de produits recyclés et sont eux-mêmes recyclables. Leurs jeans sont un sans-produit nocif et peuvent même être raccommodés par l'entreprise. Alors, attention, hein, tout n'est pas mirifique au pays de Patagonia, puisque les vêtements sont principalement produits dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Mais en tout cas, c'est quand même toujours mieux que l'ultra fast fashion de Shit. Sauf que les prix de Patagonia, eh bien, ne sont pas les mêmes que ceux de Chine. Alors, un autre exemple, celui de Safilin, une entreprise des Hauts-de-France, qui souhaite réintégrer l'ensemble de sa production en France, justement. Parce que, si notre pays est le premier producteur mondial de lin, les entreprises qui le transforment sont essentiellement chinoises, avec un coût de production inférieur de 40% au coût français. Donc là encore, un comportement plus vertueux, mais qui coûte effectivement très cher aux consommateurs. Alors, c'est bien pourquoi l'État et l'Union européenne doivent absolument pénaliser les producteurs les moins disants en termes d'empreinte environnementale et socialement, comme le réclame le collectif. Toutefois, si du côté des entreprises tout est frais pour que nous puissions nous vêtir et être beaux sans trop abîmer la planète, il reste maintenant à convaincre clients et clientes qu'un 10e crop top ou un 20e t-shirt répond davantage à un imaginaire, qui nous propose ce qui est beau et ne répond pas forcément à un besoin. Et là, figurez-vous Marie, j'ai aussi une solution. Il faut mettre ces nouveaux entrepreneurs de mode que sont les influenceuses et les influenceurs à la manœuvre. Plutôt que d'influencer leurs millions de followers pour qu'ils surconsomment de la fast fashion, ils doivent promouvoir le « habillons-nous moins, mais habillons-nous mieux ». Parce que Gramsci l'avait bien dit, pour changer les pratiques, il faut d'abord changer les imaginaires.
Merci beaucoup Soizic pour cette dernière chronique de la saison.
Voilà, et vous pouvez acheter un joli maillot de bain durable sans problème.
Exactement, donc des vacances avec des vêtements durables, c'est possible.
Tout à fait, bel été à vous.
Merci, bel été à vous aussi Soizic, merci beaucoup. Puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi. Restez bien sur nos ondes, puisqu'à 19h il y aura Novorama, à 20h The Voice of Cassandre et à 21h d'Eclectic Jazz. Et nous, on revient demain, je vous souhaite une très belle journée.